hablando de un vestuario casero de Gandal. Je réfléchis totalement ce que tu
dis. Oui, c'est une compagnie au Katanga. Je pense qu'on peut, en fonctionnant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans votre émission 100% interactive, Parole aux auditeurs sur Radio Okapi, émission qui vous permet de participer en direct sur nos antennes au débat du jour. À propos justement de ce débat du jour, nous débattons aujourd'hui de l'opération Tolérance Zéro après la magistrature, la fonction publique et les entreprises publiques. Cette opération vient de frapper trois cadres du ministère de l'Environnement et de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des Gérades, arrêtés depuis près d'une semaine par l'Agence nationale de renseignement ANER, qui sont mis en cause dans le détournement de près de 450 000 dollars américains de la DGRAD. Alors, que pensez-vous de l'opération Tolérance Zéro contre la corruption? C'est la question principale de notre débat du jour, à laquelle question nous vous demandons déjà de commencer à réagir, car notre standard est ouvert et nous vous donnerons dans un instant nos contacts. Nous abordons notre thème du jour avec le porte-parole du ministre de la Justice, Maître Ruffin Louko. Nous espérons qu'il va nous rejoindre bientôt dans ce studio de Radio Okapi. Excellente condition d'écoute à tous et à toutes.
Réagissez en direct à l'actualité sans parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiokapi.net.
Josaphat, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà.
Je vous appelle de Bukavu.
Merci pour votre tonus. Hein. Vous êtes dans la province du Sud Kivu. Alors, quelle est votre idée, quelle est votre pensée sur cette opération Tolérance Zéro? Est-ce qu'elle touche aussi Bukavu, au Sud Kivu, ou toute la province en général?
Ben, certainement, l'opération Tolérance Zéro a touché aussi la province du Sud Kivu, et spécialement la ville de Bukavu, où on a vu les chefs de division des cadastres et de l'urbanisme et habitants ont été virés, ils ont été révoqués. Justement, l'opération a touché. Et de ma part, personnellement, j'estime que c'est une avancée parce que nous avons besoin d'un néo-leadership individuel ou sociétal qui devrait canaliser toutes les énergies de leadership au Congo. Donc, c'est très bien que l'on ait commencé par quelque part. Parce qu'il faut toujours commencer par quelque part. Si on cherche à changer les choses, on commence toujours par quelque part. Il a commencé par les chefs de l'État, a commencé par la magistrature, enfin l'administration publique. Et aujourd'hui, on a suivi dans les entreprises para-étatiques, on a suivi aussi la DGAS. C'est très bien, parce que ça apprendra aux Congolais de mieux gérer, n'est-ce pas, la res publica, de mieux gérer la chose qui appartient à tout le monde. Il ne faudrait pas devenir individualiste et comprendre que c'est son ventre qui voudrait être rassasié et non les autres. Donc, c'est très bien que les chefs de l'État aient pris cette initiative, mais je pense aussi que nous serons satisfaits si nous réalisions qu'un jour ou un autre, un ministre avait été viré pour avoir aussi été impliqué dans cette histoire. Vous savez que dans l'Assemblée aussi nationale, il y a des députés qui étaient impliqués, n'est-ce pas, dans cette histoire-là. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Nous aimerions que la justice, le gouvernement a investi, s'investissent aussi dans ces affaires-là. Qu'on voit aussi ces députés-là traquer comme on le fait avec les autres.
Oui,
mais aussi à la fin, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont fait, mais je ne suis pas d'accord aussi parce que il faut attaquer non seulement les conséquences, mais c'est les causes. Pourquoi est-ce que les gens se corrompent comme cela? Ou bien ils sont en train d'aider. Ils détournent mais volent l'argent de l'État. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne se partage pas le bonheur national brut. Il ne vaudrait pas que c'est le ministre qui touche 12 000 dollars, 15 000 dollars, alors qu'un fonctionnaire n'a même pas 30 ou 40. Vous voyez un peu ça. Donc, il faut qu'on se partage le bonheur national brut. Non pas en termes d'égalité, mais en termes de la condition des femmes de vie des Congolais. Vous trouverez que quelqu'un qui n'a rien à manger depuis le matin.
Merci beaucoup, merci beaucoup, Josaphat. On vous a compris. Merci d'être intervenu depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Je vous rappelle concernant les députés nationaux qui avaient été soupçonnés d'être impliqués dans la corruption. Le procureur général de la République avait demandé à l'Assemblée nationale la levée de leur immunité parlementaire. Merci beaucoup. d'être intervenu. Et bonne journée à tous ceux qui nous suivent dans cette partie du pays. Voilà, d'une province à une autre et d'un auditeur à un autre, nous allons quitter l'est du pays pour nous rendre au sud-est, précisément à Kamina, c'est dans la province du Katanga. Augustin, vous êtes sur place. Bonjour d'abord.
Ouais. Bonjour, bonjour, monsieur Claude.
Est-ce que
le slogan, hein, tolérance zéro. Le président de la République a initié cette décision-là de tolérance zéro. Mais nous appelons d'une part, nous regrettons du fait que dans son discours d'investiture, le président de la République avait dit fini la révélation. Déjà, quand il a été installé, il allait déjà faire, donc mettre fin à la révélation. Mais quand il vient dire, après, je ne sais pas, 3 ans dans son pays, il vient lancer des slogans tolérants zéro. Bon, d'une part, nous acclamons, quoi, son idée, d'une part, nous sommes en train de le détester. Et je regrette, d'une part,
le plus tard, Augustin, qu'est-ce que vous dites, plus tard, vous faites quoi?
Vous dites.
Plus tard, vous.
Non, plus tard, nous détestons, quoi. Les soldats, là, de tolérance zéro. Pourquoi? Le président de la République devrait d'abord commencer par révoquer les ministres. Les ministres sont des grands détournés, quoi, de fond. Mais il est allé s'apprécier à la magistrature. Et quelque part, là, on entend que les fonctionnaires de l'État ont été aussi mis à la porte. Alors, on regrette aussi longtemps que les fonctionnaires de l'État vivent dans des conditions inhumaines. Venez à Kamina et essayez de visiter quoi? Les bureaux du territoire, visiter certains bureaux de quartier, vous trouverez quoi? Les conditions dans lesquelles les agents de l'État.
Augustin.
Il allait d'abord.
Augustin, oui. On peut s'écouter s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, hein. Écoutons-nous s'il vous plaît, ouais. Parce que c'est un dialogue. Voilà, vous dites qu'il faut bien sûr s'attaquer aux causes, certains fonctionnaires ou certains agents de l'État qui ne sont pas bien payés. Mais comment se fait-il que des agents de l'État ou des PDG, des administrateurs délégués généraux des entreprises sont très bien payés, mais ils sont quand même attrapés dans... Ils sont soupçonnés de corruption. C'est le cas notamment de la suspension de l'ADG de la SONAS.
Dans le problème de la BIC, bon, l'idée qu'il a soutenue est très bonne. Bon. Monsieur Claude, j'ai salué cette idée et d'une part, je l'ai détectée. Détecter dans quelles conditions le président de la République allait améliorer les conditions salariales de quoi? Des subalternes. Hein, ben c'est ça. En évoquant le haut fonctionnaire là, bon, d'une part, nous sommes en train de saluer cette idée.
Voilà, merci beaucoup Augustin, vous interveniez à partir de Kananga, de Kamina, c'est dans la province du Katanga. Au revoir et bonne journée.
Au revoir.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous allons longer le fleuve Congo pour nous rendre plus, un peu plus à l'est du pays, à Matadi, c'est dans la province du Bas-Congo. Et Ernest, vous êtes sur place, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi les propos des deux premiers auditeurs. Il y en a un qui salue cette opération en disant que c'est une avancée, mais il faut s'attaquer aux causes, c'est-à-dire qu'il y ait une juste répartition des richesses du pays. C'est un peu la même chose hein, avec le second auditeur qui lui intervenait à partir de Kamina au Katanga. Votre réaction à vous, c'est laquelle?
Oui, merci bien. Je dirais que l'opération tolérance zéro me semble incrivide. Hein? Incrivide.
C'est-à-dire
que c'est crivide. C'est au centre, comme maître mot, la corruption d'impunité pour atteindre la bonne gouvernance. Me semble vraiment incrivide parce qu'il y a plus de 3 ans que le président de la République avait déclaré l'ouverture des portes de prison. Et nous n'avons pas vu les grands messieurs qu'aujourd'hui, malheureusement, eux-mêmes, les ministres appellent les communes en cravate, circulent librement la cité.
Mais il y a un ministre provincial qui a été arrêté et condamné.
Oui, mais, monsieur, vous rappelez-vous d'une des émissions de la Radio Capi, celle qui avait défini la justice congolaise comme en termes de fils de cœur d'araignée. Hein?
C'est-à-dire,
ce sont des petits êtres d'État minables. Parfois corrompu, et il concernait même, il dit donc, on va te sacrifier, mais quelque temps après, on va vous libérer, et on vous prend en considération comme victime. Mais les grands messieurs, les auteurs, ils sont à la cité, en train de se promener. Et tantôt même, on les mixe, on s'approche du chef de l'État. C'est pourquoi moi, je propose au chef de l'État, s'il veut réussir enrichir l'occupation tolérance zéro, il doit nettoyer son entourage. Parce que ton entourage, ton collaborateur immédiat qui lui propose par exemple certaines décisions et qui après on se rend compte qu'il y a des faussaires parmi les gens qu'on lui propose de nommer. Donc c'est une correction encore là à ce moment-là. C'est pour ça que je me dis, la corruption, tolérance zéro, lutte contre l'impunité, prend plusieurs formes maintenant. On se masque. Pour ne pas voler, on va recruter les membres de famille pour les caser gauche et droite. Et si vous prenez quelqu'un d'autre et vous dites opération retour, tous ces éléments de crédit de la République doivent veiller pour bien sanctionner. Même l'opération pour obtenir un document de parcelle ou passeport biométrique, le temps que ces documents, ces autorités font pour finir ces documents. Mais on se rend compte qu'il y a des opérations terribles. Ce sont des transferts qui dérangent la population.
Voilà, Blanchard, oui. Excusez-moi Ernest, vous êtes en Matadioba Congo, vous dites que le chef de l'État doit aussi nettoyer dans son entourage, mais est-ce que c'est tout l'entourage du chef de l'État qui est à nettoyer? Il n'y a-t-il pas aussi des gens honnêtes comme dans toutes les
questions? Il y a des gens honnêtes, mais à la cité, parce que nous n'avons pas la qualité de sondage. Si vous faites le sondage à la cité, il y a d'autres qui vont tomber, mais rien que par le point de vue de la population. Mais nous avons vu dans notre pays pendant ce temps ici, les gens finissent pour défendre un mal, parce que ce monsieur est à côté du chef de l'État. Donc c'est vraiment marrant pour constater que cela, mais le pauvre monsieur se bat seul, mais quelque part il doit vraiment être seul pour dire. Est-ce que je suis aidé par mes collaborateurs pour mener l'opération à zéro?
Ernest, merci. Vous intervenez à partir du Bas-Congo. C'est dans la province de Matadi. C'est dans la province du Bas-Congo. Salutations à tous ceux qui nous suivent dans cette partie du pays. Nous allons quitter l'ouest du pays pour nous rendre un peu plus au nord. C'est dans la province de l'Équateur et précisément à Mbandaka. Blanchard, vous êtes sur place. Bonjour.
Oui, bonjour Claude.
Est-ce que vous partagez le point de vue de certains auditeurs qui sont passés avant vous, qui estiment que oui, opération tolérance zéro, c'est bien, mais il faudrait qu'elle concerne aussi les gros poissons, c'est-à-dire les ministres, les députés nationaux qui ont été soupçonnés de corruption, je pense, si je ne me trompe pas avec la DGI.
Oui, je partage le même point de vue que tous ces auditeurs-là ont dit.
Oui.
Oui, je vais commencer par dire, quand le gouvernement congolais arrive à prendre de telles initiatives en ce qui concerne la corruption, c'est une bonne chose. Mais nous nous posons ici la question de savoir si cette déclaration de tolérance zéro ne restera pas un simple slogan ou cet idéal dont on doit chercher à tout prix, atteindre et peut être pénétré.
Mais
et peut-être on ne peut pas l'atteindre.
Blanchard, excusez-moi, je voudrais vous poser une question, hein, parce que à un certain moment, on entendait beaucoup de Congolais dire qu'il y avait trop de slogans, les portes de la prison resteraient ouvertes pour ceux qui seront pris en flagrant délit. Ça, c'est le président de la République qui l'avait dit, je crois, lors de son discours d'investiture le 6 décembre 2006. Il y a aussi le slogan « Fini la récréation » et puis maintenant « Tolérance zéro ». Je vous rappelle tout simplement qu'il y a eu 80 agents de commandement de la fonction publique qui ont été révoqués par des ordonnances du chef de l'État. Il y a aussi près d'une centaine de magistrats qui avaient aussi été révoqués par le chef de l'État. Ils étaient accusés notamment de corruption, des perceptions indues de revenus auprès de la population. Et il y a eu aussi notamment des suspensions au niveau des entreprises publiques. Voilà. Comment vous voulez, avec tous ces faits, comment pouvez-vous dire que nous craignons que cela ne reste que des slogans?
À ce bout de la fin de cette récréation a commencé en retard. On devait commencer ça depuis longtemps, mais on a vu le chef d'État est venu prendre des décisions en retard. C'est pourquoi je disais que nous craignons de faire que cette tolérance zéro ne reste qu'un simple slogan.
Mais il y a un dicton qui dit qu'il n'est pas trop tard pour mieux faire.
Pardon?
Il y a un slogan qui dit qu'il n'est pas trop tard pour mieux faire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pardon, je n'ai pas bien suivi, vous dites quoi.
Merci beaucoup, Blanchard. Vous intervenez à partir de Mbandaka, c'est dans la province de l'Équateur. Nous allons quitter le nord du pays pour aller maintenant à l'est, plutôt au nord-est du pays, à Beni précisément, c'est dans la province du Nord Kivu. Mauricio, bonjour.
Oui, bonjour, M. Claude.
Est-ce que vous pensez, comme l'a dit le précédent auditeur, que cette opération tolérance zéro arrive un peu tard?
Non, je ne pense pas, parce qu'il faut sûrement laisser la chance. Vous savez, M. Claude,
oui.
Considérant l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme et le clanisme, par leurs multiples disciplines, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine de ces pays. Donc, j'ai pensé juste à mon niveau qu'il fallait d'abord rétablir cet homme-là congolais qui est appelé à assumer des responsabilités, qui engage cet État, qui engage la nation, qui engage ce peuple congolais qui a besoin de voir des hommes qui font ce parti aux urnes pour élire, donner de belles images qui pouvaient changer ce pays demain.
Mais vous êtes trop théorique, hein. Essayez un peu de descendre, essayez un peu d'être concret.
Donc, j'ai dit que moi, une tolérance zéro, on les veut bien. Mais apparemment, ce que nous voulons de ce discours est dans un premier cas qu'on devrait d'abord rétablir cet homme congolais.
Rétablir comment? Rétablir cet homme comment? Est-ce que vous philosophez? Okay. Essayez un peu d'être un peu plus, un peu plus concret.
C'est-à-dire que, d'une façon concrète, il fallait que cet homme-là soit dans de très bonnes conditions de vie, qui puisse l'égarer de ces phénomènes-là corruption, qui ne soit pas trompé facilement, qui soit seulement appelé à répondre aux exigences de la République et pour l'orientation de ce pays.
Voilà. Vous êtes un peu plus concret maintenant, donc il faudrait rétablir l'homme congolais pour qu'il vive dans des très bonnes conditions. Nous allons vous quitter un tout petit peu tout en vous gardant à l'antenne. Hein. Mauricio, vous êtes à Béni, au nord de vous. Pour demander à Séraphin s'il est aussi également s'il soutient, excusez-moi, votre position. Séraphin, vous êtes à Ouvira dans la province du Sud Kivu. Bonjour.
Ah, bonjour.
Est-ce que vous soutenez aussi la position de Mauricio qui estime qu'il faut d'abord rétablir les bonnes conditions de vie hein, pour l'homme congolais avant de devoir sévir?
Bon, merci beaucoup, M. Pi, d'avoir pu m'accorder l'opportunité de participer encore une fois de plus dans votre émission.
Ouais.
En fait, bon, je ne suis pas du tout de son avis. Pourquoi? Parce que j'avais encore une opinion là, paradoxe par rapport à l'opinion de mon précédent auditeur qui vient d'intervenir. Moi, je voudrais juste dire ceci. Nous, Congolais, actuellement, nous sommes un peu champions en vocabulaire. Souvenez-vous, lors de la prestation chef de l'État, la prestation de son chef de l'État, c'était le 6 décembre, on avait dit que finit la récréation. Mmh. Aujourd'hui, tolérance est zéro. Mais ce n'est pas le cas, nous continuons toujours à faire la récréation. Imaginez-vous avec le dossier-là de détournement de 1,3 milliard de dollars que le ministre auprès du Premier ministre de Défense Mario Draghi dénoncer. Jusqu'à présent, ces gens ne sont pas arrêtés.
Mmh. Voilà, donc.
Il y a encore un autre dossier de 12 députés là, corrompus, de l'affaire BGI. 11 de la majorité présente. Parce qu'ils sont de son obédience, non, ils ne sont pas sanctionnés. Mais comment nous continuons toujours avec l'impunité, toujours le changement de slogan, fini la récréation. Aujourd'hui, on nous dit encore, oh, tolérance zéro. Demain, on dira encore, oh, quelque chose de slogan encore. Alors, c'est pas comment on va évoluer avec ce genre de slogan.
Voilà. Merci beaucoup, Séraphin. Juste un petit mot, hein. Un petit mot, peut-être, Mauricio, pour terminer avec vous en quelques secondes.
Oui, ouais, je voulais dire à ce propos que tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. À ce moment, l'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de les garantir aux Congolais des droits au développement.
Merci beaucoup, Mauricio.
Et les Congolais doivent être animés d'une volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État des droits et une nation puissante et prospère.
Merci beaucoup, Mauricio. Vous interveniez de Béni et Séraphin. Vous étiez à Ouvira, c'est dans la province du Sud Kivu. Merci pour toutes vos interventions.
Radio Capi donne la parole en direct à ses auditeurs sur l'actualité en République démocratique du Congo. Lundi, mardi, jeudi et vendredi, réagissez au téléphone ou par internet de 11h à 10h heure de Kinshasa et de 12h à 13h heure de l'Est du pays. Réagissez par votre opinion compte. Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Vous venez peut-être de vous joindre à nous dans cette émission interactive Parole aux auditeurs sur Radio Okapi, une émission qui vous permet de participer en direct à notre débat du jour. Je vous en rappelle justement les thèmes pour vous permettre d'intervenir vous aussi. Aujourd'hui, donc, nous parlons de l'opération Tolérance Zéro après la magistrature, la fonction publique et les entreprises publiques. Cette opération vient de frapper 3 cadres du ministère de l'Environnement et de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation des Gérades, arrêtés depuis près d'une semaine par l'Agence nationale de renseignement ANER, ils sont mis en cause dans les détournements de près des 450 000 dollars américains de la Gérade. Alors, question, que pensez-vous de l'opération Tolérance Zéro contre la corruption en République démocratique du Congo? N'hésitez pas, réagissez tout de suite à ce thème du jour par SMS au 09 98 999 222. Vous pouvez également en profiter pour nous envoyer juste votre prénom et un numéro de téléphone par lesquels nous pouvons vous rappeler. Donc, à ce numéro SMS 09 98 999 222. La deuxième possibilité, c'est de nous appeler directement au 081 99 77 800, 081 99 77 800. Et si vous êtes à l'étranger, ajoutez le code de la RDC 00243 au 81 99 77 800. Appelez-nous et nous vous rappellerons tout de suite après. La dernière possibilité, si vous nous suivez à travers l'internet, et c'est partout dans le monde, donc écrivez-nous à l'adresse pa@radiookapi.net. N'oubliez pas, Radio Okapi s'écrit en un seul mot avec 2 lettres O collées. Nous en parlons aujourd'hui avec Maître Ruffin Louko. Il est conseiller juridique du ministre de la Justice et, si je ne me trompe pas, également son porte-parole.
Je vous en prie, merci.
Soyez le bienvenu dans ce studio, Maître Ruffin Louko. Parlez devant le micro, s'il vous plaît. J'espère que vous avez quand même pu suivre quelques interventions de nos auditeurs.
Tout à fait.
Réaction.
Nous comprenons la réaction des auditeurs. Nous comprenons ces réactions parce que, principalement, ces réactions sont dues au fait que ça fait 30 ans l'héritage congolais, 30 ans d'un pays géré sans sanction.
Ils disent que les gros poissons ne sont pas touchés par cette opération, notamment les ministres et les députés nationaux qui ont été soupçonnés de corruption avec la Direction générale des impôts.
Je vous ai aussi suivi.
Dont le procureur général de la République avait demandé la levée de l'immunité.
Je vous ai aussi suivi leur donner les différents cas parce que la machine a commencé à Kinshasa d'abord par les Kuluna qui coupaient les bras déjà, qui arrachaient les dents de nos compagnons.
Les délinquants
de la ville de Kinshasa. Oui. Et la machine qui a ainsi commencé est en train maintenant de franchir les pas vers ce que tout le monde réclame, les couronnes en cravate. Et vous avez cité ici, dans cette émission, vous avez cité le ministre provincial qui a été immédiat. Il n'est pas détenu, il est condamné. Il est à Makala. Ça, c'est le ministre provincial de l'Équateur. Le ministre provincial du Kassai, incessamment. Les 12, 13 députés qui avaient été mis en cause et dont la population avait réclamé leur traduction devant les juges. Le procureur général, vous l'avez dit, a déjà demandé pendant que le Parlement est accordé. Donc c'est le bureau qui va répondre. Le bureau va devoir répondre au procureur général de la République pour que ces gens-là qui sont immunisés, ils ont des privilèges, que ces privilèges ou l'immunité principalement soient élevés, en fait que la justice ait la possibilité, n'est-ce pas, de mettre la main sur eux pour que l'on puisse savoir comment se sont-ils comportés de cette façon et répondre devant la justice.
Et donc, ça dépend de la bonne foi, ça dépend de la bonne foi du président de l'Assemblée nationale.
Il est tenu de statuer sur la demande du procureur général, pas de la bonne foi. C'est comme un tribunal, lorsque le tribunal est saisi, il doit examiner la demande.
Mais on se rappelle, hein, Maître Ruffin Louko, c'est l'histoire de ce pays. On se rappelle que lors du rapport du professeur Bakandeja,
ils s'étaient posé le même problème. La justice demandait au Parlement de la transition de l'époque de lever l'immunité parlementaire de certains députés qui étaient pointés du doigt ou soupçonnés de corruption. Et l'Assemblée nationale renvoyait la balle également à la justice. C'était un peu du
ping-pong. C'est votre rôle de la presse. Peut-être les jeux politiques peuvent faire que certaines personnes se gênent, qu'on puisse traduire cela ou ceci en justice. Les jeux politiques peuvent s'interposer. Mais la presse et l'opinion. La presse et l'opinion. Lorsque vous avez appris, vous, la presse, l'opinion, lorsque la presse est non, la justice réclame certaines personnes. Vous devez donc, nous et vous, faire la pression sur les politiques pour que les politiques laissent la justice faire son travail. La machine a commencé. 30 ans de gestion sans sanction, le président de la République a dit halte, on arrête. Les prisons sont ouvertes maintenant pour tout le monde.
Il y a un auditeur qui a dit que le 11 là sont de la majorité présidentielle. Est-ce que la majorité qui est à l'Assemblée nationale va accepter d'abandonner
Vous avez suivi la conférence de presse qu'a animée le secrétaire général de la majorité présidentielle. Il dit, nous levons l'option, nous majorité présidentielle, on ne va plus intervenir en quoi que ce soit en faveur des criminels économiques qui sont disséminés au sein de la majorité. Et c'est vrai, c'était une difficulté. Oui, évidemment, vous les avez suivis, vous l'avez diffusé. Vous avez diffusé, n'est-ce pas, la conférence de presse qu'a animée le secrétaire général. Donc, bref, la population doit désormais avoir l'espoir qui se relance parce que la justice a été balayée. Donc, le président de la République, comme il a promis que non, comme Dieu l'avait déjà dit, la condamnation commencera, le jugement commencera par l'Église. Le président de la République a commencé par la justice, qui est donc l'Église, qui donne les leçons. Eh bien, s'il peut le faire à la justice, malheur à ceux qui se comporteront mal en dehors de la justice.
Voilà, là, c'est un peu comme un prédicateur. Merci, Maître Louko. On vous garde encore dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Nous allons maintenant rejoindre Franck, qui intervient à partir de l'Autriche en Europe, Madame Baudine, qui est à Goma, au Nord Kivu, et Ernest de la Ligue Coco, qui est à Kinshasa, je crois, c'est la Ligue Congolaise de lutte contre la corruption. Je pense qu'il y avait fait un rapport sur la gestion des faits de rétrocession dans les provinces qui semblait-il étaient mal utilisées. On commence avec vous, Franck, puisque vous intervenez à plus de 7000 km de la RDC. Bonjour, Franck.
Oui, bonjour, monsieur Claude.
Alors, vous avez suivi les uns et les autres qui sont intervenus dans cette émission. Quelle est votre contribution?
Oui, moi, je crois que je ne dirais pas quelque chose de vraiment exceptionnel. Mais j'ai seulement quelques questions, peut-être, qui pourront encore nous faire raisonner.
Allez-y.
Et si c'est possible, mes questions, je vais peut-être les adresser au porte-parole du ministère de la Justice.
Oui.
Je veux savoir, monsieur le porte-parole, si à travers cette lutte, nous sommes en train de combattre la corruption en soi comme concept, ou bien nous sommes en train de chercher à combattre toutes les causes qui peuvent occasionner ou favoriser la corruption chez nous. Ça, c'est une des premières questions. La deuxième question serait de savoir s'il est vraiment réaliste de combattre de telles pratiques, sans pour autant commencer par repenser les conditions minimum de la vie des citoyens congolais au niveau national. Et avec la deuxième question, je crois là, je suis presque sur la même ligne de pensée que M. Maurice, qui intervenait de Beni Boutembo, et de Séraphin, qui intervenait de Ouvire. Bon, je préfère ne pas trop me verser dans des polémiques, qui est dans l'entourage du chef de l'État, et j'espère que c'est un homme d'État, il sait avec qui il peut travailler, mais seulement à voir ce qui se fait, ce qui se passe. On se demande si vraiment les Congolais, ils ont la volonté de bannir de telles mentalités.
Mmh.
Et quand on dit on va combattre la corruption, on le commence en amont ou en aval de l'extérieur ou de l'intérieur. À partir de quel point? Parce qu'on en parle, il y a des slogans, mais jusqu'ici, c'est comme si on est en train de faire des surplaces. C'est comme ça. Les thèmes, moi, ça m'intéresse, mais je ne sais pas qu'est-ce que nous combattons maintenant. La corruption, comme...
Vous l'avez déjà dit. On l'a compris. On a noté vos questions. Franck, juste une dernière question. Parce qu'il y a aussi d'autres auditeurs qui sont déjà en ligne, notamment Mme Boudine de Goma, en Antibou. Alors, comment se passe la lutte contre la corruption en Autriche? Il n'y a vraiment pas de corruption là-bas, là où vous vivez. Est-ce que certains hommes politiques ou des hommes puissants sont pris dans la corruption et mis également en prison?
Je serais un menteur et même un laïc si je peux dire que la corruption n'existe pas dans les pays occidentaux. nous devons d'abord reconnaître que la corruption, c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine. Donc les hommes de tous les temps, les hommes de tous les continents, les hommes de toutes les races, ils peuvent se faire corrompre. Mais seulement la proportion de la corruption en Autriche et la proportion de la corruption chez nous au Congo, je crois quelque part, on ne peut pas la comparer.
Est-ce que des hommes politiques autrichiens sont aussi mis en prison?
Il y a des faits, oui. Il y a quelques mois, on parlait de scandale d'une banque, la banque des travailleurs, Barak. Il y a eu aussi des tendances de corruption. Donc, je ne peux pas dire que la corruption n'existe qu'au Congo, non. Mais je crois que nous devons aussi nous tabler au niveau de la proportion de la corruption. Comment ça se vit chez nous?
Merci beaucoup.
Et comment ça peut se vivre ici, à Autriche, par exemple?
Merci beaucoup.
Chez nous, on n'a parfois même pas, on n'a pas honte pour réclamer quelque chose de corruption, quoi. Mm. Mais ici, c'est peut-être à travers des voies où c'est pas visible, on peut les détecter bien quelques mois après ou après.
Voilà, merci beaucoup Franck, vous intervenez à partir d'Innsbruck, c'est en Autriche, en Europe. Merci, nous allons quitter l'Europe pour revenir ici en République démocratique du Congo et prendre la direction de l'Est du pays, à Goma, précisément, alors qu'il vous... Madame Baudine, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Voilà, on vous écoute. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'auditeur qui est passé avant vous, qui a aussi exprimé un tout petit peu ses craintes hein, quant à cette opération?
Ok, merci beaucoup. Premièrement, je salue d'abord la décision du président de la République de sanctionner les auteurs de la corruption des hommes en RDC. Mais je dirais que tout d'abord, nous savons tous que les détournements à l'RDC, c'est une réalité criante qui se voit d'ici et là. Mais la grande forme d'hôtel a démontré aussi une grande crainte, puisque nous avons souvent vu que les sanctions réservées à certains auteurs de ces actes sont vraiment quelquefois discriminatoires. Moi, je veux personnellement m'attaquer parler concernant les députés nationaux qui avaient été soupçonnés d'avoir été corrompus. Pour moi, je trouve ça vraiment très anormal de voir que jusqu'à maintenant, ces députés ne sont pas encore punis. Puisque nous les avons envoyés là-bas pour nous présenter, nous, la population. Et pendant nos campagnes, je ne vois pas un seul député qui disait qu'il allait encourager la corruption. Maintenant, voir qu'aujourd'hui, ils ont détourné leur objectif et continuer à le maintenir à l'Assemblée jusqu'à maintenant, disant non, nous allons réserver les immunités. Ça aussi, c'est une très grande irrégularité qui n'est pas vraiment compréhensible pour nous, la population.
Mm-hmm.
Donc, tout ce mot et tant d'autres qui rongent la société congolaise devraient être sanctionnés très sévèrement. Puisque je ne vois pas comment on peut avancer dans un pays démocratique avec tant d'impunité, surtout sur le plan corruption. La corruption même qui est au Parlement de la République.
Madame Baudine.
Donc, si on... Oui.
Bon, que dites-vous des auditeurs qui pensent que sanctionner c'est bien, mais si on ne combat pas les causes de la corruption, c'est-à-dire les mauvaises conditions de vie des Congolais, est-ce que la corruption ne va pas continuer? On a entendu quelqu'un dire que il peut y avoir aussi une corruption contournée. Au lieu de voler directement, on engage, par exemple, dans son cabinet de ministre, rien que les membres de sa famille.
Ah oui, donc, tirer les causes de l'impunité, c'est bien. Mais il y a quelque part la mauvaise volonté des Congolais en général. Si, par exemple, prenons l'exemple des députés. Est-ce que nous allons parler que si ces députés étaient corrompus, c'est parce qu'ils avaient les conditions de vie qui n'étaient pas favorables? La réponse, c'est non. Ça veut dire que donc, si la corruption est au Congo, la cause en général de la corruption, c'est seulement cette volonté-là. C'est l'impunité, disons. Donc, le mot-clé de l'impunité au Congo, c'est l'impunité. Et si le président de la République a compris cela, il a commencé à punir, nous saluons et nous encourageons, mais nous demandons que cette décision-là, que cette punition-là ne revêt pas un caractère discriminatoire, de punir certains et de punir des autres, surtout, ce député qui était suspecté de la corruption, qu'il soit puni, qu'il connaisse les immunités, qu'il soit vraiment l'exemple, pour que c'est eux-mêmes les moyens que tout le monde voit. Quand on voit qu'un député national a été puni puisqu'il a été corrompu, ça veut dire que maintenant, tout le monde verra que comme le député a été puni, donc moi aussi, je serai puni. Donc, je voudrais, donc, en conclusion,
terminez parce qu'il y a aussi d'autres qui veulent intervenir, Madame Baudouin. Terminez votre idée. Merci beaucoup, Madame Baudouin, d'être intervenue dans cette émission. Parole aux auditeurs. Ernest, vous êtes de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption et vous aviez publié un rapport sur la gestion, la mauvaise gestion, d'après vous, de l'argent dû à la l'argent destiné à la rétrocession aux provinces. Vous êtes à Kinshasa. Est-ce que vous partagez le même point de vue que celui de Madame Baudouin de Goma au Nord Kivu qui dénonce, qui ne voudrait pas que cette opération tolérance zéro fasse l'objet d'une certaine discrimination entre les petits peuples et les gens qui sont suffisamment élevés, hein, comme les députés nationaux, ministres, etc.
Oui, effectivement, monsieur le journaliste, nous, à la Likoko, nous partageons les arguments de Madame de Goma. Et d'ailleurs, il y a des cas qui sont tellement probants. Nous avions dénoncé le cas du gouverneur, et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Il y a le cas de l'ADG de la SONAF, l'ADG Mbonyo, Herman Mbonyo, qui est libre jusqu'à aujourd'hui.
Mais il a été suspendu, hein?
Il a été suspendu, mais c'est sûr avec son argent qu'il a bouffé.
Excusez-moi, monsieur le conseiller, hein, du ministre de la Justice, on voudrait vous répondre quant au cas de M. Ernest Tombo. Est-ce qu'il est encore libre?
Il n'est plus libre, monsieur. Il n'est plus libre. Vérifiez vos informations, il n'est plus libre.
Il est aux arrêts. Voilà, vous l'avez compris. Allez-y.
Les gouverneurs des provinces qui ont détourné le fonds de la rétrocession, nous avions écrit au Premier ministre pour qu'il dirigeant des audits afin de les traduire en justice. Il y a le cas des opérateurs économiques qu'on avait arrêtés dans l'État et qu'on nous a promis qu'on va les libérer. Et lorsque nous avons pris contact avec le parquet général de la République, on nous a dit non, écoutez, il y a des complices et ces complices sont des gros poissons du pouvoir en place. Et jusqu'à présent, ces Occidentaux, on sait même plus qu'ils sont encore ici à Kinshasa, parce que la justice nous avait promis qu'ils avaient saisi leur passeport. Il y a le cas du rapport Bayobo. Vous vous souvenez tous, rapport Bayobo avait promis qu'il y a eu détournement de 1,7 milliard de dollars. Tout le monde qui s'implique sur ces détournements-là sont libres jusqu'à aujourd'hui. Et le ministre vient nous faire voir, écoutez, non, nous avons la tolérance zéro. Et la tolérance zéro, c'est pour des petits peuples, c'est pour des coulounes qu'on envoie à Ikefala.
À Ikefala et à Osio aussi.
Oui. Mais ces gens qui ont détourné 1,7 milliard, ils circulent, monsieur le journaliste. Tu ne vois pas que c'est des pas de mesure.
Voilà. Merci beaucoup, Ernest. Vous intervenez à partir de Kinshasa. C'est dans la capitale. Merci pour votre contribution. On va peut-être aussi laisser monsieur le conseiller juridique du ministre de la Justice du gouvernement central répondre à nos auditeurs, hein. Mais je vois déjà qu'il y a sur mon écran d'ordinateur, Alfred est en ligne depuis Baraka au sud Kivu et Fiston de Walikale au nord Kivu. Voilà, je donne d'abord la parole au représentant. Au porte-parole du ministre de la Justice du gouvernement central. Il y a des questions, hein.
Est-ce que nous combattons la corruption
ou les causes,
les conseils.
Vous combattez la corruption ou les causes de la corruption, c'est-à-dire la pauvreté.
Je crois que
les auditeurs est un peu nuancé en disant non, mais il y a aussi des grosses légumes qui volent, qui participent à la corruption. Comment expliquer? En principe, c'est des pauvres.
Est-ce que nous combattons la corruption? Ou c'est juste un simple concept, ou nous voyons seulement les apparences au lieu de nous attaquer directement aux causes. Eh bien, cette question est une question importante. Elle est à la fois adressée, n'est-ce pas, à tout le gouvernement et au ministère de la Justice. Les quelques types de réponses que je vais rappeler à nos auditeurs, à vos auditeurs, c'est que d'abord, principalement, nous avons la preuve que, chez nous, même si on ramenait le salaire déjà à l'équivalent en francs congolais de 10 000 dollars, 5 000 dollars et consorts. Parce que là, vous avez la preuve. Aujourd'hui, de tous les citoyens congolais, ceux qui sont les mieux payés, ce sont les députés. Mais voilà, 13 parmi eux.
Donc, les ministres, hein.
Ok, les ministres. D'abord.
Ouais, c'est plus que les députés. Okay. Les ministres du gouvernement.
Ok, alors, j'ai cité juste une catégorie, les députés.
Non,
ils sont corrompus.
Hein.
Ils sont corrompus, alors. Ils sont corrompus. Les mandataires sont bien payés, ils sont corrompus. Donc, il faut rappeler, donc, à notre population que la corruption n'est pas seulement dite aux conditions salariales.
Il y a un ministre qui disait que c'était un état d'esprit ici en République démocratique.
C'est devenu, malheureusement un état d'esprit. Et ça, cet état d'esprit a été consolidé par l'absence totale, l'ébranlement de la justice, l'absence totale de la sanction.
Mmh.
Et c'est ce que le chef de l'État veut, n'est-ce pas, réhabiliter. Principalement d'abord, la sanction. Lorsqu'on dit que non, il faut absolument qu'on puisse prendre toutes les solutions à la fois pour mieux combattre, n'est-ce pas, la corruption. Eh bien, d'abord, il faut rappeler que, en ce qui concerne les fiscs, d'abord le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice n'est pas le ministre du Travail. Le ministre de la Justice n'est pas le ministre de l'Éducation nationale. Le ministre de la Justice n'est pas le ministre des Finances et du Budget. Nos juges qui doivent appliquer la sanction. Les juges ne sont pas des pasteurs. Leur travail ne sont pas des religieux. Leur travail, c'est. Ils sont des fonctionnaires pour administrer la justice, pour rendre justice et à la collectivité et à tous les citoyens. Donc, nous commençons par la justice, la réhabilitation, le rétablissement de la sanction. Le régime disciplinaire doit concerner tout le monde. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés que le chef de l'État se retrouve maintenant chez les fonctionnaires après avoir quitté les magistrats. Les décisions se retrouvent maintenant vers les mandataires et vers les régies parce que ces grands filets de lutte contre la corruption va atteindre tous les compatriotes, toute l'étendue du territoire national. Et il faut qu'on sente, comme dans tous les autres pays, que partout où que vous soyez, à Zongo, à Kipushi, à Kasumbalesa, à Mwanda, vous soyez à Bilolo, vous soyez à Sandoa, vous soyez au Sankuru, vous soyez à Aru, eh bien, vous violez la loi, vous détournez l'argent de l'État. Vous vous laissez corrompre à la frontière, partout, vous allez voir la justice devant vous. Vous allez voir les gendarmes et les policiers devant vous.
Justement, puisque vous parlez du détournement des recettes hein, de l'État, notamment des régies, peut-être dans les régies financières, il y a Ernest de la Licoco qui intervenait depuis Kinshasa qui pose des questions sur les détournements de plus d'un milliard de dollars américains qu'avait dénoncé l'ancien ministre, le premier ministre Godefroy Mayobo.
En définitive, les gouvernements avaient statué là-dessus et les gouvernements avaient envoyé le dossier devant le procureur général. Et ce procureur général, malheureusement sortant, l'autre l'a remplacé pour continuer ce dossier. Les dossiers avaient été envoyés à la justice. Et je crois peut-être que c'est à cause de cette lenteur de la justice que le chef de l'État était obligé de commencer la sanction, le jugement par l'Église, qui est la justice. Il y a eu beaucoup, vous vous rappelez, à la dernière émission, j'étais passé ici au nom du ministre de la Justice. Nous avions avalé les décisions. Nous avions dénoncé cette lourdeur de la justice. Nous avions dit ici, comme le ministre de la Justice l'a dit, que cette justice, si elle ne se rend pas compte, qu'elle joue le rôle principal. Ça veut dire, si elle ne bouge pas, la nation n'avance pas. Vous voyez maintenant aujourd'hui, tous vos auditeurs réclament, exigent la sanction. Il faut donc que la sanction puisse être un mode de vie, vous sachiez à tout moment, vous avez fait ceci, tu violes la loi, vous verrez la sanction.
Rapidement, j'ai sur mon écran d'ordinateur Alfred de Baracos, qui vous, Fiston de Wadika de Honor, qui vous est l'ingénieur John de Kinshasa. Mais il y a une question importante quand même qui avait été posée. Hein. Le ministre de la Justice avait dit qu'il avait entrepris, je pense, des démarches pour mettre au clair le détournement des fonds destinés à la construction de routes, réhabilitation des infrastructures. On a vu des Congolais, certains entrepreneurs des travaux publics avaient été arrêtés et même des entrepreneurs de travaux publics étrangers. Alors, où en est-on avec ce dossier, notamment des étrangers qui avaient été arrêtés? Parce que ça, c'est un effet aussi de la vie.
Voilà, et ça, coup de chapeau à cette société civile très active et qui s'engage à ce que les dirigeants puissent donner des comptes à la population. Et la population, comme premier représentant, des qui doivent donner des comptes, ces dirigeants, c'est la justice. Donc, ce travail qu'a fait la Licoco, coup de chapeau. Où est le dossier, n'est-ce pas, de ces entrepreneurs qui avaient arraché, gagné des marchés publics? Eh bien, le dossier est au parquet général de la République. Et on continue l'instruction.
Ils sont en prison ou à l'extérieur?
Certains sont encore en prison, d'autres ont réussi la liberté provisoire. Vous savez, la liberté provisoire n'est pas la fin du dossier. Donc, nous attendons que la justice, le parti général de la République puisse fixer ses affaires. Le ministre de la Justice, lorsqu'il a fait la conférence de presse, la fois passée en ce qui concerne les décisions contre les magistrats, a rappelé qu'on s'était même aventuré de tenter de donner des marchés publics à ces mêmes personnes sous poursuite. Ils se sont même payés les kilos d'aller encore demander d'autres marchés publics. C'est le ministère de la Justice qui s'y est opposé.
Donc, et les étrangers qui avaient été arrêtés, ils sont encore au pays ou bien ils sont partis?
Certains étaient malades.
ont obtenu la liberté.
Et ils sont rentrés chez eux.
Non, non, tous ne sont pas rentrés, d'autres sont encore ici. Tous et d'autres sont encore ici. Quelques-uns sont rentrés, évidemment, par la
première. Vous êtes de poursuivre ceux qui sont déjà dans leur pays.
Mais la justice fait son travail, c'est-à-dire que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, l'essentiel que la justice se prononce et éventuellement ordonne la confiscation.
Merci beaucoup, nous avons trois auditeurs qui sont déjà en ligne. Alfred, on commence. On va faire une conférence, on va vous faire discuter à l'antenne. Alfred de Baraka au sud Kivu, Fiston de Walika de Nord Kivu et John de Kinshasa. C'est aussi ça l'avantage et le miracle de la technologie. On commence avec vous, Alfred. Bonjour, vous êtes au sud Kivu à Baraka. Alors, quelle est votre conférence pour
maintenir le visage? Merci, Alfred.
Oui.
À Baraka. Et je veux juste intervenir. Nous devons d'abord remercier cet acte de l'État. Malgré que c'est après 3 ans qu'il a compris que les sons qu'il a sonné pour mettre la fin de la récréation, que certains élèves étaient encore à l'extérieur, et le train sera le bâton pour le mettre en classe. Toutefois, c'est pas ça la solution. Je pense qu'il devait d'abord s'attaquer aux causes. Comment, par exemple, nous qui sommes des enseignants qui ne recevons rien du tout, comment il va me garantir que je ne recevrai pas une correction? Je passe la nuit sans manger. J'ai mes enfants aussi qui étudient ailleurs, mais je manque aussi quoi pour payer les frais scolaires. Et que quelqu'un vienne avec son argent, je ne sais pas si je peux refuser cet argent-là. Donc, ce que je pourrais conseiller au chef de l'État est d'améliorer d'abord les conditions de vie des citoyens. Prenons l'état de nos militaires. Un militaire qui ne reçoit que 30 000 francs, par exemple, et qu'un ennemi vient avec 100 dollars, pense-t-il que ce soldat va défendre ou va arrêter cet ennemi? Je pense qu'il va lui laisser et trahir la nation.
Mais moi, je n'ai pas le prix, hein. Je n'ai pas le montant exact que touche un militaire. Voilà, on vous garde encore en antenne. On va quitter le sud Kivu pour nous rendre pas très loin de chez vous, hein, dans la province voisine du Nord Kivu, à Walika, notamment, où ils sont déjà en direct sur Radio Kapi. Si on réagissait au propos d'Asfred, qui n'est pas très loin de chez vous, là, à Baraka, il est à Baraka au sud Kivu.
Merci Jean-Claude. Moi, je veux dire, donc c'est par rapport à ça, et moi je condamne mes deux parties, donc je condamne l'État congolais et je condamne d'une part aussi le peuple congolais. Parce qu'il n'est pas concevable que nous, en tant que peuple congolais ou citoyens de notre pays, quel que soit on peut manquer, comment on peut vivre, mais nous devons quand même avoir les soucis de notre pays, nous devons avoir quand même des consciences au sein de notre pays pour faire et contribuer pour faire avancer notre milieu.
Mais donc vous êtes contre Alfred, excusez-moi Fiston, vous êtes donc contre Alfred qui dit qu'en tant qu'enseignant, avec le salaire qui touche là, il ne peut pas résister à la corruption. Vous êtes donc contre Alfred?
En fait, moi je ne suis pas tout à fait contre, mais plutôt nous devons prendre de conscience envers notre pays. Oui, bien sûr que cet argent qui touche l'enseignant ne peut pas le faire vivre, mais plutôt, par rapport à ça, quand même, nous devons avoir la culture de ne pas aussi exagérer. Exagérer vraiment, ce n'est pas utile.
C'est-à-dire?
Par rapport au gouvernement, le gouvernement est responsable parce que lui, il ne prend pas en charge leurs agents. Et que donc, nous tous, nous devons contribuer pour lutter à la corruption. Nous devons aussi encourager cette initiative du chef de l'État de prendre de conscience en tant que peuple congolais pour faire avancer notre pays.
Voilà, on vous garde encore à l'antenne. Question de faire réagir à vos deux propos. Hein. L'ingénieur John, qui lui est très loin de l'Est, à 1 000 000 de kilomètres de l'Est du pays, lui il est ici à Kinshasa. Bonjour John, réagissez face aux propos d'Asped, de Baraka au sud qui voit des fissons, de Walika Léonard qui vous qui sont en ligne dans cette émission.
Oui, bonjour Claude, et bonjour tous les auditeurs.
Bonjour.
Je vais épouser certains points de vue de mes prédécesseurs qui démontrent la responsabilité du gouvernement et aussi démontrer quelque chose. Dans notre pays, nous sommes très habitués aux slogans. Il y a toujours des mots qui l'on lance. Le chef de l'État l'a rappelé, les portes des prisons sont ouvertes, bien sûr. Mais nous pensons qu'elles ont été ouvertes pour le faible et les petits poissons, pour qu'ils y entrent, mais des portes de prison étaient aussi ouvertes pour que les gros poissons puissent sortir.
Mais quand un ministre provincial, par exemple de l'Équateur et un de la province du Kasaï oriental, sont saisis par la justice, est-ce que ce sont des petits poissons? Ce sont quand même des ministres.
Oui, mais c'est encore de petits poissons parce qu'on a commencé au gouvernement provincial. Vous voulez me dire qu'à la présidence de la République comme au gouvernement central, tout marche bien? Par rapport au gouvernement central, ce sont des petits poissons. Rappelez-vous le rapport Bakandeja, le rapport Lutundula, le constat de Mayobo, le rapport des organismes qui décrit la corruption. Non, mais c'est un problème qui se trouve à tous les niveaux. Aujourd'hui, on peut le démontrer aussi par le fait que les trains de vie de ceux qui sont au gouvernement est en train de monter en vitesse de croisière, tandis que le train de vie de la population est en train de baisser sérieusement. Oui, à cause de quoi? C'est la corruption. Au ministère des Affaires étrangères, pour obtenir le passeport, il faut toujours avoir des voies non officielles par lesquelles vous pouvez facilement attraper le passeport.
Mais il y a un chancelier, je pense, un ou deux chanceliers des Affaires étrangères qui ont été arrêtés, hein, parce que à cause de l'usage des tenants lieu de l'attestation des nationalités. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un signal fort?
C'est un signal fort, mais ce n'est pas suffisant. Nous, nous pensions à notre niveau que la lutte doit être à double vitesse. Il faut d'abord chercher à comprendre les causes. Quand nous connaissons les causes, nous allons bien nous attaquer à ces dernières et puis trouver une solution à ces problèmes de corruption.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alfred. Ingénieur, d'abord vous, ingénieur John, vous qui êtes à Kinshasa. Alfred, qui intervenait depuis Bamako, ensuite qui vous est ici, de Walikale, au Nord Kivu. Merci beaucoup, au revoir.
Je n'étais pas à la sensibilité.
Voilà, on revient à vous, Maître Lucien Ndoukou.
Et la difficulté par rapport à ça, évidemment, l'attente ou les attentes est grande en ce qui concerne notre population. Ils demandent qu'il faut qu'on touche à tous les niveaux, parce qu'il y a la corruption partout. Mais on ne peut pas toucher à tous les niveaux à la fois, il faut commencer quelque part. Et là, nous venons de commencer. Il faut donc qu'on commence quelque part. Et quelque part, c'est là où une infraction vient de se commettre. Le ministre provincial de l'Équateur a été attrapé en train de commettre une infraction de la fausse monnaie, de la contrefaçon. La justice s'est mis la main sur lui, on l'a traduit devant son juge naturel qui est la Cour suprême et il a été condamné. Donc,
mais nos auditeurs disent que c'est encore un petit poisson hein, comparé à.
Oui,
à
évidemment, lorsqu'on parlait de 30 000 gros poissons et qu'on a touché un. Hein, on va dire que c'est un petit poisson. Mais au moins, on a commencé la série de gros poissons. On a commencé. La justice devrait absolument commencer quelque part. Vous savez, comme par rapport à votre auditeur de circuit, qui dit que non, lui est enseignant et que est-ce que le chef de l'État peut garantir que lui ne touche pas l'argent? Parce que d'abord, la corruption, il faut qu'il réalise, lui, que la corruption, c'est un état d'esprit. C'est comme le vol. Vol, c'est lui qui fait. La justice, lui, lorsqu'il va vous attraper, la justice n'a pas pour mission de vérifier les causes de l'infraction, les causes de la faute. La justice constate que vous avez commis une faute, vous sanctionne. Ça veut dire, il faut que les gens réalisent que c'est vous-même qui devez résister. Le ministre a donné un exemple savant, une image savante, en disant, c'est comme un boa qui est en train de poursuivre une antilope. Un boa qui poursuit une antilope et qui avale sa propre queue. Lorsque les bois avalent sa propre quête, elle ne marche plus. Lorsque vous êtes vous-même fonctionnaire représentant de la nation, vous vous laissez à la corruption. On aura l'argent pour vous payer.
Maître Ruffin Loco, vous êtes porte-parole du ministre de la Justice, du gouvernement central et son conseiller juridique. Je m'en vais lire rapidement quelques mails hein, qui nous sont parvenus nombreux. Roger Bokissou de Kisangani qui dit « Mieux vaut tard que jamais ». J'encourage le président de la République dans cette initiative. J'espère que c'est la fin de la récréation et c'est le moment où nous allons voir les ministres, les ADG, le gouverneur, les députés dans les prisons. Ça revient encore, maître. Il y a Eddy de Kinshasa qui, lui, pense que l'autorité doit faire son travail afin de sanctionner ceux qui font les choses à leur manière. Jusqu'à quand les bourgmestres vont-ils continuer à nous terroriser, s'exclame-t-il, Eddy de Kinshasa, merci. Jean de Kinshasa également pense que l'entrée de notre parcelle est bloquée depuis un temps par un ministre provincial. Notre appartement a été vendu illégalement aux galeries présidentielles. Nous détenons toutes les preuves d'acquisition depuis la construction, mais à chaque fois qu'on prononce un jugement, nous ne faisons que perdre. Nous sommes passés dans différentes chambres, mais sans suite. La tolérance zéro, consultée, c'est pour les uns et non pour les autres. Merci beaucoup. Olivier de Mata Dioba Congo pense que cette opération n'est qu'une distraction car plusieurs autorités politiques détournent et ne sont pas inquiétées. Christian de Goma, se demande si l'opération Tolérance Zéro ne pourra pas atteindre également l'enseignement, car nos enseignants sont très corrompus, d'après lui. Et David, qui nous écrit depuis les États-Unis, pense que cette mesure est le point fondamental pour les changements de mentalité de tous les responsables de chaque secteur de la vie du Congolais. La mentalité a été ruinée dans toutes les couches sociales. Il ne faudrait surtout pas cesser un jour cette approche de Tolérance Zéro. Qu'on le veuille ou pas, le Congo doit nécessairement passer par cette mesure. Merci pour tous vos mails. Maître, vous n'avez qu'une minute pour conclure, réagir à ces mails et puis conclure.
C'est-à-dire, il faut d'abord que la population congolaise, ou qui nous entende, ou qui nous suive, réalise que c'est le moment ou jamais pour la relance et de la justice et de l'économie de notre pays, en passant par la lutte contre la corruption. Le chef de l'État a donné le ton, le gouvernement a suivi. La population doit adopter ces mesures.
Donc aujourd'hui, si je vais à la justice, on ne va pas me demander des frais indus, même si je vois...
C'est interdit.
On m'arrête dans un commissariat de police, on ne va pas me demander des montants pour lesquels je ne vais pas recevoir des factures.
Porter une plainte contre lui à l'auditorat, parce que les policiers sont justiciables. C'est interdit de demander l'argent à la population. Et la population doit réaliser que c'est interdit de donner de l'argent aux fonctionnaires de l'État. Il faut que cette mentalité revienne chez nous.
Mais il est parfois terrorisé en voyant et les policiers en armes ou les militaires en armes.
Non, mais il ne se terrorise pas pour donner l'argent. Il a son arme, mais pas pour vous demander l'argent.
Mais ce n'est pas tous les militaires.
Donc, j'aimerais que la population puisse réaliser que nous n'allons pas... Nous, le chef de l'État refuse que nous puissions demeurer un pays sans sanctions. Il faut plus tolérer que les gens détournent un milliard. Est-ce que vous avez déjà entendu ça dans un pays, 2, 3, 4 personnes, 53 personnes détournent un milliard?
Merci.
Il faut
beaucoup.
Que ça s'arrête, et ça va s'arrêter par la sanction, et nous demandons que la population soutienne notre justice.
Merci
vous
beaucoup.
Avez des problèmes, portez plainte.
Merci beaucoup, Maître Lucas Louko, pour votre participation. Je rappelle que vous êtes conseiller juridique du ministre de la Justice du gouvernement central et son porte-parole. Vous l'avez compris, l'émission par aux auditeurs d'aujourd'hui s'achève. Nous prenons rendez-vous avec vous demain pour vous faire réagir à la libération provisoire de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, décision annoncée pendant le week-end par la Cour pénale internationale CPI. Envoyez vos réactions dès maintenant par SMS au 09 98 999 222 et par internet à l'adresse pa@radiocapi.net. Tikin Poutou et Piro et la Magie ont préparé cette émission. J'ai peur, Jean-Claude Calé était à la mise en onde et Ben Samamba Souré, la continuation. Merci, au revoir.